Nous sommes à Toulouse le 13 octobre 1761, soit presque un siècle après la signature de l'édit de Fontainebleau par Louis XIV. En effet, l'édit de Nantes condamne les protestants à se convertir au catholicisme. Nombreux d'entre eux choisissent l'exil, bien qu'il leur soit interdit de quitter le royaume. Ceux qui choisissent de rester se font le plus discret possible. Il est important de rappeler ce contexte, car en ce mardi, une sombre affaire secoue la ville et bouleverse la vie de la famille Calas. Effectivement, lorsque Jean Calas, un marchand de tissus protestants, découvre à son domicile le corps de Marc-Antoine, son fils aîné qui s'est pendu après un dîner de famille. À l'époque, le suicide est très mal vu et les cadavres des suicidés reçoivent un traitement infâme. Ils sont traînés dans les rues, face contre terre, puis jetés aux ordures. Alors afin d'éviter que ce traitement soit infligé à son fils, il tente maladroitement de camoufler le suicide en meurtre. Rapidement, des rumeurs de meurtres rituels à l'encontre des Calas se répandent dans la population majoritairement catholique de Toulouse. Les autorités locales, influencées par des préjugés religieux, commencent à accuser la famille Calas d'avoir assassiné Marc-Antoine en raison de sa conversion au catholicisme. Jean Calas, le père de famille, est immédiatement arrêté et accusé de meurtre. Sa femme, Anne-Rose, ainsi que leurs deux filles, Marguerite et Marie, sont également soupçonnées d'être complices. Ainsi, le procès des Calas se déroule devant le Parlement de Toulouse. Les témoignages en faveur de la culpabilité des Calas sont basés sur des présomptions et des préjugés, sans véritable preuve tangible. Les avocats de la défense dénoncent ces accusations infondées et soulignent l'absence de motifs pour que la famille Calas ait commis un tel acte. L'ami de Jean-Jacques Rousseau, l'oiseau de Mauléon, leur avocat, n'empêchera pas cependant la condamnation à mort de Jean Calas, qui subit les pires supplices.
Il paraissait impossible que Jean Calas, vieillard de 68 ans, qui avait depuis longtemps les jambes enflées et faibles, eût seul étranglé et pendu à un fils âgé de 28 ans, qui était d'une force au-dessus de l'ordinaire. Il fallait absolument qu'il eût été assisté dans cette exécution par sa femme, par son fils Pierre Calas, par l'avesse et par la servante. Il ne s'était pas quitté un seul moment le soir de cette fatale aventure. Mais cette supposition était encore aussi absurde que l'autre, car comment une servante zélée catholique aurait-elle pu souffrir que des Huguenots assassinassent un jeune homme élevé par elle pour le punir d'aimer la religion de cette servante ? Comment l'avesse serait-il venu exprès de Bordeaux pour étrangler son ami dont il ignorait la conversion prétendue ? Comment une mère tendre aurait-elle mis les mains sur son fils ? Comment tous ensemble aurait-il pu étrangler un jeune homme aussi robuste que tous ? Sans un combat long et violent, sans des cris affreux qui auraient appelé tout le voisinage, sans des coups réitérés, sans des meurtrissures, sans des habits déchirés ? Jean Calas clame son innocence jusqu'à son dernier souffle le 10 mars 1762. Son épouse est acquittée, les deux filles sont enfermées au couvent. Condamné à l'exil perpétuel, l'un de ses fils, Jean Calas, décide de rencontrer Voltaire pour persuader le philosophe que son père a bien été condamné à tort. Le philosophe est pourtant difficile à convaincre, tant les réformés ne lui paraissent guère valoir mieux que les catholiques, mais son exigence de la justice et de la liberté d'expression l'emporte. Convaincu à son tour, Voltaire va dès lors tout entreprendre pour défendre la mémoire de Jean Calas et porter l'affaire publiquement. Il organise un groupe de pression avec ses amis et rassemble tous les documents afin d'obtenir la révision du procès. Avec son ami Étienne Noël d'Imalaville et le soutien de Grimm, le rédacteur de la correspondance littéraire, Voltaire veut non seulement réhabiliter Jean Calas, mais aussi aider matériellement et moralement la veuve et ses enfants, qui sont également ses co-accusés à travers le projet de souscription pour une estampe tragique et morale. Plus qu'une injustice, Voltaire voit dans cette affaire l'expression d'une intolérance religieuse des catholiques vis-à-vis des protestants. C'est ainsi qu'un an après la mort de Jean Calas, Voltaire publie en 1763 son traité sur la tolérance. C'est un extrait de cet ouvrage que je vous ai lu précédemment. Avec son intervention pour faire réviser le procès Calas, Voltaire est considéré comme le premier homme de lettres en France à s'investir publiquement dans une affaire judiciaire.
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Cette phrase correspond à l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Celle-ci possède plusieurs liens fondamentaux avec l'affaire Calas, car Jean a été condamné sans preuve véritable, mais simplement car sa religion et ses croyances ne correspondaient pas à celles attendues à l'époque. Il a souffert d'une grande injustice. De plus, la liberté d'expression est transmise dans ce texte. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions. Cela nous ramène à l'action de Voltaire qui, dans son œuvre, Le traité sur la tolérance, a simplement transmis ses pensées et son opinion de manière à convaincre. Cette publication remet l'affaire sous la lumière et la famille Calas obtient un entretien auprès du roi Louis XV. Le procès sera dès lors révisé et un arrêt sera obtenu suite au combat de Voltaire. Une assemblée de 80 juges et le conseil du roi réhabiliteront Jean Calas en le déclarant finalement innocent le 9 mars 1765. Enfin, par l'édit de Versailles, le 7 novembre 1787, Louis XVI met fin à la répression envers les protestants. La liberté de culte fut définitivement adoptée avec la Déclaration de l'homme et du citoyen en août 1789, dont cette phrase a été tirée.